sommaire. Je vais vous présenter deux exemples historiques parce que cet art engagé, c'est un art engagé qui est à la fois, qui prend la figure du Christ comme la personne qui était elle-même engagée, hein, et pas simplement pour des questions religieuses, enfin c'était aussi social, comme vous savez. Donc deux exemples historiques qui sont assez parlants, marquants, puis je vais vous montrer trois exemples beaucoup plus récents, et ensuite je vais remonter dans différentes thématiques. Alors les deux exemples historiques, cet artiste allemand Georges Grosz, hein, qui est un député communiste et qui a lutté contre la militarisation de la société allemande, le nazisme, etc. Et en 1927, donc c'était avant que Hitler ne prenne le pouvoir, mais enfin bon, voilà, les nationaux-socialistes étaient déjà très importants, il a fait cette image. Caricature un peu, qui a été d'abord un décor de théâtre et puis qui a été reproduit différentes, voilà, avec ce Christ soldat enrôlé de force avec ses bottes de soldat, ce masque à gaz, hein, et puis avec ce slogan, hein, ferme ta gueule et continue à servir, hein, donc était quand même très c'était un pacifique, hein, il voulait vraiment, il disait on peut pas se revendiquer du Christ et puis prôner la guerre, la militarisation de la société, etc. Au même époque où les églises, qu'elles soient protestantes et catholiques, en Allemagne, ben évidemment, bénissaient les canons. Et ce dessin lui a valu un procès, on a détruit ses planches gravées, et il a, fort heureusement pour lui, quitté l'Allemagne dès 1933, ben sinon, il n'aurait pas survécu. Ce qui est assez intéressant, c'est que les nazis, une fois au pouvoir, donc vous savez qu'il y a eu l'incendie du Reichstag, etc., et ils ont réutilisé ce tract, en disant « Regardez comme c'était un communiste, hein, regardez ce qu'ils ont fait du Christ. Hein, » donc les nazis qui essayaient de défendre un peu l'honneur du Christ, hein, avec une relecture complètement inversée, alors que, et puis ce mot « Gottlosigkeit », hein, sans Dieu, hein, avec je vous lis juste le début du commentaire du tract nazi, hein, qui a repris un peu cette caricature, le Christ avec un masque à gaz dû à l'auteur de culture bolchevique, Georges Grosz. Donc vous voyez comment le Christ est récupéré par les uns, par les autres, mais bon, celui qui avait finalement un vrai message carré dans le sens de ce qu'avait été le message du Christ, c'était bien sûr Georges Grosz, hein, et pas les nazis qui avaient récupéré l'image. Donc tout ça pour vous dire comment ces images peuvent être réinterprétées dans différents contextes et relues presque de manière inversée. L'autre exemple historique que je vous montre, on est toujours en domaine allemand, c'est un graveur Otto Panko, qui est un artiste assez peu connu en France, mais qui l'est pas mal en Allemagne, et qui a fait, vous voyez, c'est en 1950, donc après la Deuxième Guerre mondiale, ce Christ, alors pacifique, alors il a différents noms parce qu'il n'a pas donné de titre, c'est un bois gravé, donc le bois gravé, il s'est inspiré de Dürer, hein, qui faisait des bois gravés, de Cranach, de ces artistes de la Réforme, et donc en allemand c'est Christus zerbricht das Gewehr, hein, qui casse un peu ce fusil comme si c'était une brindille, etc. Et ce qui est, alors là aussi, un artiste qui n'était pas chrétien, hein, qui est simplement, lui, il a été inspiré par cette figure christique en disant, cette figure, eh bien, elle va transmettre des valeurs qui sont les miennes, c'était aussi un pacifique absolu, et donc je vais faire une œuvre qui a eu alors des effets très importants, non seulement en 1950, mais plus tard, et c'est ce que je vous ai mis ce petit commentaire là en sépia, la gravure sur bois fut popularisée, donc 30 ans après sa réalisation, les mouvements pacifiques est-allemands, hein, qui ont conduit à la chute du mur, hein, dans les années 80, etc., ont redécouvert cette gravure qui était finalement restée un petit peu anonyme, et l'ont multipliée à l'infini, puisque c'était une gravure, et on l'a vu presque défiler dans ses marches pacifiques, etc. Donc vous voyez comment une reprise par ces mouvements pacifiques qui étaient quand même issus des églises protestantes, hein, ont repris l'œuvre d'un artiste qui lui était un électron libre, hein, qui avait simplement cette intuition que cette personne du Christ, eh bien, elle le séduisait par son pacifisme, par le fait qu'il refusait toute violence. En fait, donc vous voyez, c'est intéressant ce passage, hein, d'entre de milieux chrétiens ou de milieux qui ne le sont pas, mais c'est c'est une figure qui peut parler à tous ceux qui ont un idéal et qui essayent de la mettre en pratique. Alors on fait un saut, un grand saut, puisque j'arrive en 2022, hein, donc c'est quasiment contemporain. Et là, je vais vous donner deux, puis en fait j'en ai rajouté un troisième, là en préparant cette conférence ces derniers jours. Alors le premier, eh bien, c'est évidemment un événement qu'on a tous vécu et qui est dramatique, et on le vit encore. C'est évidemment quand la Russie envahit l'Ukraine. Et donc immédiatement, il y a eu évidemment un élan de solidarité qui, on espère, va continuer. Et l'artiste Gérard Garouste, ça vous dit quelque chose, Garouste, ou pas, hein, artiste, c'est actuellement un des artistes peut-être les plus connus en France, français les plus connus, qui a un itinéraire assez particulier parce qu'il il était issu, alors lui aussi, de famille complètement athée, et il s'est converti au judaïsme. Donc il est maintenant considéré, il est artiste juif, mais un judaïsme très libéral. Il y a eu une très grande rétrospective Garouste au Centre Pompidou il y a 2 ans. Hein, donc il a eu droit vraiment à tout l'espace médiatique, culturel de la capitale. Et il a fait, lui, voilà, c'était quelque chose tout à fait aussi un coup de cœur, il a fait cette lithographie en mars 2022, qu'il a vendue en 500 exemplaires. Donc, c'est, voilà, il fallait être l'année 701er. Et j'étais, je crois, le 498e ou un truc comme ça. Donc, j'ai pu avoir aussi la gravure. Donc, c'est un peu... J'ai un original de Garouste maintenant chez moi. Et tout le prix de la vente a été transmis, évidemment, pour des associations de solidarité avec ces Ukrainiens voilà, qui souffrent horriblement de la guerre. Alors, commentaire de l'artiste. Le personnage est double et inversé, avec un aspect négatif en bas et positif en haut. Ce qui m'intéresse est de montrer combien le bien est imbriqué dans le mal et que toute chose nourrit son contraire, comme l'enseigne la Kabbale juive. Il est très inspiré dans ce qu'il fait par la Kabbale juive. Même s'il ne faut pas oublier que la quête de justice et de liberté est cette fois du côté de l'homme aux couleurs de l'Ukraine. L'essentiel est qu'un tableau suscite des questions. Donc ça, c'est un commentaire qu'il a fait, hein, que j'ai trouvé en faisant quelques recherches. Mais ce qu'on peut voir, si on essaye ensemble de décrypter l'image, c'est une figure christique, et avec son double inversé, parce que vous voyez qu'il y a l'homme, et puis il est dans un espèce d'arbre qui a des racines, ou alors c'est soit qu'il a des racines, soit qu'il est, il est des branches mortes, parce que c'est vraiment une lutte entre la vie et la mort, le bien, le mal, etc. Et puis, vers le haut, il y a des... voilà, l'arbre est florissant, etc. Et moi, en étudiant un peu plus ce schéma, j'ai retrouvé quelque chose d'assez proche. J'ai mis en parallèle cet arbre à la fois avec des branches mortes et qui fleurit du côté de la lithographie de Garouste, et puis un tableau de Lucas Cranach, donc le peintre de la Réforme, hein, l'ami de Luther, qui a lui fait toute une série qui s'appelle Loi et Évangile, où d'un côté, du côté de la loi, l'arbre a des branches mortes, c'est la mort, hein, c'est le règne du péché, là, c'est la mort, c'est les ténèbres, etc. Et de l'autre côté, eh bien, l'arbre fleurit. Il a des feuilles, il a des fleurs, etc. Et ça va représenter la vie, la grâce, l'évangile, la libération, etc., etc. Donc, je ne saurais pas dire si est-ce que Garouste connaissait ces tableaux, cette série. Peut-être qu'il les connaissait pas. Peut-être que ça, il y a aussi une espèce d'inconscient culturel qui circule dans la création artistique, c'est-à-dire qu'on les artistes s'inspirent d'œuvres antérieures qu'ils ont vues, même s'ils ont oublié, ça réapparaît. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai tracé un peu une continuité entre cette lithographie très engagée de Garouste et puis une peinture, celle du peintre de la Réforme luthérienne, qui était aussi très engagée sur notre cause, évidemment. Mais vous voyez, il y a des parallèles qu'on peut tisser assez facilement. Enfin voilà, en tout cas, cette figure, elle est christique, hein, c'est assez évident. Alors, un autre exemple, là, si le code couleur, c'est pas trop grave, parce qu'on est un peu dans l'obscurité, mais nous sommes ici, alors c'est aussi 2022, hein, 2022, on est à Rome, sur le Ponte Sant'Angelo, pour ceux qui connaissent, hein, on n'est pas trop loin du Vatican, du Vatican qu'on est derrière, et il y a alors un anonyme qui a fait cette sculpture, comme ça, dans la rue, sur le pont. Hein, vous voyez cette personne plus ou moins nue, hein, on ne sait pas très bien s'il n'y a pas pas revêtu d'un maillot, et qui est là. Alors, moi j'étais pas là en août 2022, mais j'y étais un mois plus tard, Je suis allé donner une conférence à Rome, à Chiesa Valdese, faculté vaudoise, et le 2 octobre 2022, exactement, donc un peu un mois après, je découvre cette sculpture qui était là. Alors il y a un bout de pied qui est parti, qui a été amputé, mais elle est très matérialisée sur la rue, et c'était très intriguant. Mais qui a fait ça, pour dire quoi, pourquoi ici et pas ailleurs, etc. Enfin, vous voyez, je me suis
Et
posé des tas de questions.
en quelle matière?
Alors c'est de la pierre, hein, sculptée. Alors quel type de pierre, je ne pourrais pas le dire exactement, mais c'est vraiment c'est solide. D'ailleurs, vous voyez, il y avait des gens qui ont mis des fleurs, etc. Mais il n'y avait rien, pas de titre, rien du tout. Donc c'était très intriguant. Et d'ailleurs, je suis resté un bon moment là, et j'ai observé les gens. Et je me suis aperçu qu'en fait, tout le monde s'arrêtait, on prenait des photos, donc les gens n'étaient pas du tout indifférents. Et puis d'ailleurs, le lieu même n'était pas indifférent du tout, puisque elle se situe sous le château Saint-Ange, hein, qui était un ancien mausolée d'un empereur romain, avec l'archange Michel au-dessus, qui domine. Et puis des deux côtés, vous avez les sculptures de Bernini, le Bernin, hein, qui sont les anges qui portent les instruments de la Passion. Donc chaque ange ici, des deux côtés, il y a des instruments de la Passion. Donc si vous voulez, il y a presque une espèce de mise en scène, une mise en scène urbanistique, où la personne qui a fait ça l'a située précisément dans ce lieu où les éléments qui sont très connotés chrétiennement, hein, les anges, la Passion, Michel, le mausolée, le Vatican Palais, font qu'on peut avoir une lecture aussi christique de ça. Alors après, je me suis informé, je me suis dit, mais c'est qui a fait ça? Et je l'ai trouvé, voilà, en faisant des recherches, hein. C'est un street artiste, comme on dit aujourd'hui, hein, qui fait de l'art dans la rue, qui s'appelle Diego, son nom italien c'est Jacopo Cardillo, et qui, voilà, a donné d'ailleurs un titre à sa sculpture, mais qui n'apparaissait pas dans la rue, je suis prêt pour la flagellation. Donc quelque part aussi, voilà, ça fait penser à la Passion du Christ, qui a été aussi flagellée, et qui faisait mémoire comme ça de ces demandeurs d'asile qui échouaient morts, hein, sur des plages de Méditerranée. Donc voilà, c'était un espèce d'un cri. Et d'ailleurs, j'ai su que, alors après, je sais pas, il semble que ça a été vendu, mais que le prix de la vente a été donné pour l'ONG SOS Méditerranée. Donc vous voyez comment un artiste, quelque part, très indirectement, hein, mais uniquement en prenant en compte le contexte qui est autour, eh bien, tisse des relations entre ce qu'il a voulu faire. Sa figure qui n'est pas, c'est pas le Christ, hein, c'est un innocent qui est là, abandonné de tous, etc. Et même ça construit sa scène dans la rue, au risque aussi que ce soit détruit, etc., pour en faire quelque chose qui est une symbolique qui nous fasse penser quand même au Christ, hein, au Christ qui à la fois souffert de tout ce qu'on sait, mais qui avait aussi un message de solidarité qui s'adressait à tous. Et alors la troisième, ça je voulais rajouter, parce que c'est aussi à Rome, même si c'est un peu plus ancien, mais je n'ai pas la date exactement. Et je me demande d'ailleurs si l'artiste, le street artiste, n'est pas inspiré de cette sculpture. On est aussi à Rome, et sur un banc, voilà, vous avez cette sculpture de cette. Bon, ça c'est bien, comme il n'y a pas de couleur, c'est pas trop gênant. Donc on voit à peu près la même chose, hein, de cet homme-là qui est dans sa couverture et qui est. Voilà, qui dort parce qu'il n'a pas d'autre endroit pour dormir. Mais si vous attendez, voilà, si vous regardiez d'un autre côté, enfin, parce qu'une sculpture c'est fait pour tourner autour, hein, on regarde par devant, derrière, dessus, etc. Eh ben, vous voyez que les pieds qui dépassent de cette couverture, hein, ils ont les marques des clous. Donc ce simple petit détail, hein, nous fait dire, ben, finalement, cet homme-là qui est sur cette couverture, ben, c'est le Christ. Hein, c'est celui qui a été abandonné, tous, etc. Alors là, il y avait pour le coup, et je vous l'ai mis ici, un petit cartel, hein, gravé Homeless Jesus. Donc c'était bien l'artiste là, que je ne connais pas, hein, mais ce Jésus sans logis, visible par tous, hein, dans la rue, etc. Et puis même avec un verset biblique, j'étais abandonné et vous m'avez visité, hein, Matthieu 25. Et cette sculpture a été faite jolie dans le cartel pour les 50 ans de la communauté San Egidio, que vous connaissez sans doute, une communauté chrétienne qui s'engage énormément d'un point de vue même aussi politique, hein, pour être un facteur de faire rencontrer dans les conflits, que les gens apprennent à dialoguer et plutôt qu'à se faire la guerre. Voilà, donc là aussi, vous voyez comment cette figure du Christ, elle est un passage entre, je dirais, voilà, ceux qui croient en ce qu'il est et en ses valeurs, et puis ceux qui ont des valeurs aussi humaines, humanistes, militantes, mais qui peuvent aussi approfondir cela à travers des réalisations qui nous donnent à penser, hein, qui donnent à penser et qui nous font aller au-delà de peut-être nos limites. Alors, cette thématique de cette figure christique dont se sont emparés des artistes, dont la plupart ne sont, encore une fois, c'est même pas des artistes brillants, hein, ils sont artistes d'abord. Et souvent d'ailleurs, la plupart de ces artistes un peu avant-gardistes étaient assez mal vus des milieux d'église, hein, parce que ils disaient ce qui leur passait par la tête. Hein, et ils répondaient pas à des commandes, et donc, il y avait une liberté de création, qui d'ailleurs, entre parenthèses, le propre de l'art, hein, pour l'artiste, il peut tout faire, hein, il a besoin d'une liberté de création, d'imagination, sinon c'est pas un artiste, hein, sinon c'est un copieur, Donc les artistes font des choses qui sont souvent absurdes, dérangeantes, parfois provocantes, mais ouais, c'est bien que ce soit comme ça, parce que on est en plus dans une société tellement formatée que c'est bien qu'on ait des gens comme ça, qui nous dérange un peu. D'ailleurs, entre parenthèses, dans la Bible, il y a aussi des gens qui ne sont pas précisément des artistes, mais qui avaient ce rôle-là, qui s'appelaient les prophètes. Les prophètes ont fait des actes aussi assez absurdes. Si on les lit, c'était aussi pour faire prendre conscience, alors, les prophètes, au peuple d'Israël, qu'il fallait qu'ils corrigent un certain nombre de problèmes sociétaux ou personnels, etc. Dans le cas de David et Nathan, par exemple. Alors, une de ces figures artistiques qui a été très connue sur la scène internationale, mais plus en Allemagne, parce que c'était un Allemand, c'est Joseph Beuys. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Joseph Beuys, le voilà. J'ai sauté une image, donc je vais revenir, voilà, Beuys. Là aussi, j'ai pas trop de couleurs, donc c'est pas trop grave. Alors Beuys, c'était vraiment un artiste, on peut dire aujourd'hui, on dirait performeur. Hein. Il faisait des choses complètement absurdes que personne ne comprenait, et il dérangeait. Mais disons, si on décrypte un petit peu ce qu'il y avait derrière, il y a eu énormément de gens, hein, qui ont travaillé sur Beuys. D'ailleurs, comme on n'est pas très loin de Bâle ici, à Bâle, au musée d'art contemporain de Bâle, il y a tout une section qui est réservée à Beuys. Donc c'est vraiment quelqu'un qui maintenant est présent dans tous les musées du monde, même si c'est un peu contradictoire, puisque c'était un anti-art. Hein, il travaillait avec des performances, avec des actions, il faisait pas des choses qui étaient destinées à être encadrées et être dans des musées. Il a fait, par exemple, là, cette Sonnenkreuz, cette croix soleil. Et alors lui, quelque part, il s'est un peu identifié au Christ. Ça, c'est un peu étonnant. Et je vous lis le commentaire d'une historienne d'art, hein, qui est à Paris. Beuys se présente au public comme une sorte de prophète qui combine chamanisme et identification christique. Voilà, puis j'ai un autre commentaire il y a une exposition Beuys à Paris qui est déjà un peu ancienne. Je ne vais pas vous lire tout le commentaire parce que c'est un peu long, mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que voilà, il y avait quelque chose de christique dans ce qu'il faisait, et à nous d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il mettait derrière, hein, parce qu'il ne l'expliquait pas. Hein. Et donc il y a eu des tas d'interprétations, même contradictoires, etc. Mais je vais juste vous montrer l'extrait d'une performance, hein. Alors il y a une époque on l'appelait ça les happenings, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se déroule dans un temps très limité, de quelques minutes ou un instant très limité. Alors on n'en a plus les traces, ou alors il faut le filmer ou prendre des photos. Et là, à un moment, ça s'appelait Action Celtique, c'est à Bâle d'ailleurs, et il s'est mis à laver les pieds des gens qui étaient là pour le regarder. Alors évidemment, oui, il n'y a pas besoin de commentaires, quelqu'un qui se met à genoux et qui lave les pieds de gens qui n'avaient rien demandé du tout, hein, qui se retrouvent comme ça pris dans ce contexte, c'est christique, si vous voulez. Hein. Voilà, ça ne peut pas être autre chose. Hein, alors, il ne va surtout pas dire, alors j'ai fait ça pour vous, pour non, parce que si ça se trouve, lui-même ne savait même pas ce qu'il faisait, hein, parce qu'il était un personnage très étrange, puis en même temps très provocateur. En gros, voilà ce que disent aujourd'hui les historiens de l'art qui s'intéressent à ce personnage, c'est que d'abord, lui, il a été dans la Luftwaffe pendant la guerre, il aurait vécu une expérience aussi un peu presque de mort et de résurrection, parce qu'il a été son avion a été abattu, il a été laissé pour mort, il a été sauvé par un tribut de Tartares qui l'a soigné en lui mettant de la graisse et des couvertures de feu, c'est pour ça qu'il est toujours un chapeau de feu, etc. Donc il aurait lui vécu une espèce d'expérience de sortie d'une mort qui était quasiment certaine. Bon, voilà. D'autres qui disent que c'était sa provocation, c'était aussi pour s'opposer à cette société allemande qui, après ce désastre du nazisme, eh bien recommençait comme si ne rien n'était avec le miracle économique, etc. Donc il fallait pas oublier quand même, hein, contre l'oubli. Et puis c'était cette génération de gens qui questionnaient aussi leurs aînés en disant voilà, qu'est-ce que vous nous avez laissé comme héritage, etc. Enfin, vous voyez, il y avait tous ces éléments-là qui rentraient en compte. Donc, c'était un art aussi assez provocateur. Et je vais vous montrer une dernière performance qu'il a fait. Et là, on pourrait presque dire que la fiction a rejoint la réalité. Alors, ça, vous l'avez vu. Donc, c'était une performance qui s'appelait Kukei Apoke Nine. Alors, je ne veux pas vous dire pourquoi il a appelé ça comme ça. Croix de Grèce, coin de Grèce, modèle. Alors, présenté le 20 juillet 1964 au Grand Auditorium de l'Institut de Technologie d'Aix-la-Chapelle. Pourquoi le 20 juillet 64? C'était un anniversaire. 20 ans après, le 20 juillet 44. Voilà, l'attentat raté contre Hitler, hein, 20 juillet 44. Hein. Voilà, et donc il a voulu la marquer ça, enfin lui, dans le cas. Et alors il avait, justement, pour montrer qu'il y avait quand même ce désastre, était le fait qu'il y avait ces deux signes contradictoires qui avaient cohabité, alors qu'ils auraient dû s'exclure mutuellement, le salut hitlérien et la croix du Christ. Hein. Puisque, bon, ben, comme on sait tous, les églises ont, hélas, beaucoup trop appuyé le régime nazi, à part quelques très courageux et très rares résistants un peu solitaires. Et en faisant ça, il a provoqué, il a choqué les gens qui n'ont pas accepté, mais c'était en fait une reprise sur le mode un peu artistique de quelque chose qui était vrai. Et il a été agressé lui-même, hein, vous voyez, et on le voit là, le nez en sang, parce qu'il y a des gens qui sont rués sur lui, il a reçu un coup de poing, et il a continué sa performance, hein, comme ça, étant lui-même blessé, vous voyez, donc montrer que cette violence qu'il dénonçait, ben, elle pouvait s'exercer aussi dans une société qui se disait être sortie de ce cycle infernal. Et donc vous voyez, là il y a quelque chose d'assez, je dis, voilà, la réalité a rattrapé la fiction, quelque chose d'assez impressionnant, d'assez beau. Voilà, on va quitter Beuys, hein, parce que je pourrais vous parler de la soirée sur Beuys, mais bon, c'est pas l'objet même de mon... L'objet, c'est de vous présenter différentes arts militants avec toujours le Christ au centre. Tout autre chose, et plus proche de nous, Alfred Manessier, hein, donc... peintre, artiste français de la Somme, hein, qui, voilà, alors lui c'était alors un des très rares artistes qui était chrétien, hein, il y en a, dans tous ceux que je vous montrais, il y en a quasiment pas, lui c'est un peu l'exception, il a découvert la foi en pleine guerre d'ailleurs, en écoutant le chœur des moines dans une abbaye en Normandie, il entendait le Salve Regina et hop, il a reçu la grâce. Bon. Du coup, il s'est mis à faire une peinture complètement différente. Et il a fait des passions. Il y a toute une série de ses passions dont certaines étaient un peu politiques. Hein. Alors, il fait des passions selon Saint Jean, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les quatre évangiles. Mais il en a fait d'autres pour faire mémoire de différents événements. Et il a été personnellement très atteint par la mort, l'attentat de Martin Luther King. Et suite à ça, il s'est enfermé dans son atelier à Paris pendant 2 mois, il n'a vu personne, hein, et il a fait ce tableau qui s'appelle Hommage à Martin Luther King, hein, où on voit vaguement, hein, cette forme en train de... Bon,
Ah bah là aussi ça n'a rien à voir avec ce que je vois. Alors pour le coup, je vais vous montrer. Vous voyez, ouais, c'est beaucoup plus. On voit plus les contrastes, c'est plus coloré, etc. Alors on discerne cette, une forme en train de tomber. Évidemment, il y a ce rouge, etc. Ce bleu, ce rapport entre ce rouge vermillon et ce bleu très sombre, mais on voit un peu cette forme en train de tomber. Mais ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans des images d'archives. Oh là là, c'est vraiment pas votre qualité, mais bon, bref, qu'il y a une photo de quand il était en train de faire le tableau, parce que c'est un tableau qui est de très grande dimension, et il avait sur son, dans son atelier, là où il mettait ses couleurs, il avait donc cette forme allongée, et il y avait sur cette forme donc le portrait du pasteur noir, hein, pasteur Baptiste Noir qui est là, et dessous le texte « I have a dream », etc. Donc on voit bien qu'il... Il était, en même temps qu'il travaillait à ce tableau, il méditait sur ce texte, il avait le portrait du pasteur assassiné sous les yeux. Et d'ailleurs, vous voyez ici, bah, c'est la photo de gauche, il a collé ensuite ça. C'est la photo, c'est la diapo suivante. Voilà, il a collé derrière le tableau, il a mis 4 avril 68, le portrait du pasteur noir, le texte, et puis ça... et d'ailleurs sur le tableau, ben là vous ne voyez pas, hommage à Martin Luther King. Donc vous voyez là aussi, il s'est saisi d'un événement dramatique, hein, et pour lui c'était presque voilà, une façon d'espérer contre toute espérance, tellement il était abasourdi parce qu'il s'était passé par cette violence, et voilà ce qu'il en a fait. Donc voilà un art aussi, mais d'un artiste chrétien, ce qui est effectivement assez un peu l'effet. Guido Rocha, ça s'appelle Le Cri, réalisé en cire alors que l'auteur était interné et torturé au Chili. Alors là, c'est une œuvre que ce résistant aux dictatures sud-américaines, etc., qui ensuite est allé se réfugier en Suisse, il a offert cette sculpture, hein, un peu effrayante, hein, de ce Christ qui a plus que la peau sur les os, etc., c'est un cri de souffrance. Hein, je vous ai mis, la sculpture se trouve dans la communauté œcuménique des sœurs de Grandchamp, en Suisse, je pense qu'une communauté que connaissent un certain nombre d'entre vous. Et il se trouve qu'au cours d'une conférence, j'ai rencontré une personne qui connaissait très bien une des sœurs qui avait accompagné Guido Rocha et qui a raconté toute l'histoire de ce Christ, de ce cri. Et ce Guido Rocha, alors on va lire le début, je ne vais peut-être pas lire tout le texte, mais il n'était pas chrétien, un sculpteur brésilien. Guido Rocha s'exila au Chili pendant les années de la dictature militaire au Brésil. Il vécut à Santiago, il fut arrêté au moment de la dictature de Pinochet, il fut interné, torturé avec des milliers d'autres hommes et femmes victimes de la dictature. Pour exprimer la souffrance partagée dans ce camp, il commence d'abord avec du fil électrique à faire un homme sur une croix, hein, parce que c'est pour lui l'image même de l'innocent qui souffre. Puis développant son talent d'artiste, cette première ébauche deviendra le cri. En effet, plus tard, exilé en Europe, il sculptera Jésus sur la croix ou sans croix. Ce qui est important pour lui, c'est le visage et dans le visage, la bouche, le cri. Non chrétien, Guido pensait, alors qu'il était incarcéré au Chili, que seul le cri de l'homme Jésus pouvait résumer tous les cris de l'humanité persécutée. Donc vous voyez, il y a cette universalisation de la figure du Christ, du Christ souffrant, de par quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas chrétien. Donc c'est comme assez extraordinaire de voir comment des gens engagés socialement, politiquement, peuvent s'approprier à leur niveau cette figure. Hein. Le cri l'a accompagné pendant toutes ces années de prisonnier puis d'exilé. Alors après, elle raconte, mais je ne vais pas lire tout le texte parce que ça va nous amener, j'ai encore beaucoup d'autres exemples à vous montrer, mais raconte comment ensuite il a donné ce Christ, aux sœurs de Grandchamp parce que pour le remercier d'avoir été accueilli, etc. Voilà un autre, hein, il en a fait un autre, Christ torturé, c'est assez effrayant. Bon, là, les couleurs sont plutôt assez fidèles. Hein, non, mais vous voyez, c'est effrayant, mais c'est en même temps, voilà ce que lui, il a pu vivre, hein, comme personne souffrante, torturée, etc. Je change de registre et je vais vous montrer ce qu'on appelle des cristas. Hein, alors, des cristas, hein, parce que voilà... Il n'y a pas que des hommes qui ont souffert, etc. Et donc il y a toute la cause des femmes qui a pu être exprimée par une artiste anglaise, Christa Bronze, 1975. Alors quand je vous dis que cette artiste,
c'est la petite fille de Winston Churchill, enfin une des petites filles, donc elle avait effectivement des, voilà, un grand-père très, très prestigieux, mais bon, c'était une artiste, alors je ne la connais pas très mal, parce que c'est ma collègue qui s'est beaucoup intéressée à la théologie féministe, Elisabeth Parmentier, qui est maintenant un professeur à Genève, qui m'a fait découvrir cette sculpture, et qui m'a d'ailleurs fait ce petit commentaire que je vous propose. Voilà, Christa, première représentation d'une femme en croix, hein, c'est pas du tout courant, et d'une femme même nue, hein, elle est nue, hein, sur la croix. Exposée en bronze à Londres en 1965 par Edwina Sandys, hein, donc voilà, petite fille de Sturfield. Elle a d'abord travaillé la figure en argile en 1974, puis en résine, puis en bronze pour cette exposition en 1975. Elle n'était pas liée au mouvement féministe et affirme qu'elle voulait simplement représenter la souffrance des femmes. Donc voilà, une universaliste. Cette souffrance en donnant une figure christique à cette dame. Le scandale était inévitable, mais ne porta pas sur ce qui aurait dû hériter. L'on s'offusqua de la représentation non de la torture, mais du corps féminin nu, alors que c'est quand même un corps torturé. Hein, faut quand même, voilà, incroyable mais vrai, le scandale vint davantage la nudité de la crucifiée que de la reprise du motif de la croix ou du remplacement de Jésus par une femme. Voilà, et puis alors après ça a fait son chemin et cette Christa, elle a été de nouveau exposée dans différentes expositions, même dans la cathédrale St. John the Divine à New York en 84. Elle fut refusée, donc il y a eu un scandale autour de cette sculpture, mais en 2015 elle revint dans le cadre d'une exposition avec 21 autres œuvres dans l'exposition le projet de la Christa, etc. Et là, il n'y a plus de réaction. Donc il y a aussi voilà, une certaine ouverture qui se fait, peut-être, on juge moins facilement, on rentre peut-être plus facilement dans la problématique de ces artistes qui, là, défendent des causes qui leur tiennent à cœur et des causes dont parfois les artistes sont personnellement engagés. Alors je vais maintenant vous en présenter des Christs. Alors, plus contemporain, hein, là on était un petit peu dans des années, là je suis au-delà des années 2000, et donc pour rester dans le thème des Christ femmes, en voilà une, donc Jens Galschiot, un artiste danois, et vous voyez une Christ qui est non seulement une femme nue, enceinte, crucifiée, et qui est exposée dans la rue, à côté d'une église. Hein, on est donc ça va mieux comme ça. Voilà, on est à Copenhague et donc là c'était aussi pour défendre évidemment une cause et vous allez avoir le texte plus loin puisque cette femme qui s'appelle Au nom de Dieu a été reproduite dans plusieurs exemplaires et circulée dans le cadre de différentes manifestations. Alors crucifié enceinte en série de croix, Jens Galschiot, artiste danois et natif et actif dans les droits de l'homme, des droits humains, au nom de Dieu, le projet de l'artiste est de représenter une toute jeune femme crucifiée enceinte pour dénoncer le scandale du fondamentalisme chrétien qui refuse la contraception pour les adolescentes, même avec la menace du sida. Il s'agit donc aussi de faire prendre conscience du scandale de la souffrance des femmes. Alors, évidemment, là, c'est vraiment une cause qui mérite qu'on s'y engage. Qui, évidemment, a posé problème dans certaines villes, etc. La réception fut réalisée par différentes expositions qui donnèrent des accents spécifiques à Copenhague en 2006 pour dénoncer les méfaits du sida par des relations sexuelles non protégées, au Nicaragua en 2007 où les femmes voulurent dénoncer la mortalité des mères qui sont en interdiction d'avoir une interruption médicale de grossesse pour risque médical. En 2007, 37 femmes étaient mortes dans ces conditions. En Nairobi en 2007, l'artiste réalisa deux statues et pour éviter le débat sur la nudité, on les couvrit. Bon voilà, parce que là aussi c'est ça qui pose un peu problème, mais vous voyez que l'artiste veut faire prendre conscience d'une souffrance spécifique qui est injuste et qui doit être combattue, alors qu'on soit chrétien ou que l'on ne soit pas. Hein. Ça doit être, on doit combattre ce qui est considéré comme vraiment l'expression d'une souffrance physique et d'une injustice inacceptable en quelque sorte. Tout autre chose maintenant, donc vous voyez, alors je vais vous parler d'un artiste qui est assez connu en France, Ernest Pignon. Ernest, ça vous dit quelque chose? Oui. Vous avez un tableau à Belfort? Ah, bon, alors, c'est de rue. Hein. Parce que c'est un des premiers hein, qui a quand même eu l'idée Alors maintenant, c'est un monsieur âgé, hein. Mais c'est un premier qui a eu l'idée de faire de l'art dans la rue. Hein, il dit, moi, j'ai beaucoup étudié. Au début, il dit, non, je n'exposerai jamais dans des musées, dans des galeries. Moi, mon art, il est pour tous. Alors, il allait même dans les lieux du non-art. Hein, c'est-à-dire qu'il faisait des choses dans les rues. Alors, il était fasciné par Naples. Alors, il a fait ça dans les quartiers un peu sordides à Naples. Et puis, il a été dans les ports à Brest, dans les docks, etc. Et là, il a fait un cycle Jean Genet. Hein, Jean Genet, un poète assez provocateur, homosexuel, etc. Donc, il a été des condamnations. Et alors, là, je vous montre juste comment... Alors, oulala, mais vous ne voyez pas grand-chose, hein, je suis désolé. Mais bon, il faut s'imaginer. Donc, il filme, il a représenté deux hommes qui tiennent un troisième comme s'ils allaient le pendre, hein, comme ça. Donc, c'est christique. C'est christique, mais là, vous ne voyez pas, vous imaginez. Alors, il filme des acteurs qui prennent cette pose. Alors, il dit lui-même, hein, qu'il s'inspire un peu de cette figure christique. Alors, où est-ce que, pourquoi ça a changé là ? Non ? Ah. Ah oui. Voilà. Je remonte, hein. Je ne sais pas pourquoi c'est inventé. Là. Voilà. Donc ensuite, il filme des gens qui prennent une pause, et c'est lui là qui donne c'est monté, hein, des acteurs qui font ça. Ensuite, il en fait des dessins au fusain, vous voyez, et donc là, vous voyez cet homme qui représente Jean Genet, il est un peu comme le Christ, hein, qu'on veut mettre sur la croix ou détacher de la croix, peu importe, enfin bon, voilà. Et ensuite, il fait des sérigraphies sur la base de ces dessins très réalistes, hein, c'est même presque de lieu, il en fait des sérigraphies, donc, et ensuite il va aller lui-même placarder ces images dans la rue, voilà, dans des zones portuaires, etc., là où personne ne va imaginer voir une œuvre d'art. Et puis ensuite, c'est pas fini, il attend que l'œuvre se dégrade petit à petit. Alors, en fonction des aléas du temps, la pluie, le soleil, des gens qui vont arracher, voilà, d'ailleurs, il l'affiche dans des lieux illégaux, hein, il le fait exprès, donc il prend un peu des risques. Et puis là, vous voyez, les affiches se dégradent peu à peu sous l'influence du climat, des éruptions, et il revient et il prend des photos. Et par exemple ici, vous voyez, là, il est revenu, il a pris la photo de son affiche à Brest le 8 février 2007. Ben, il ne restait plus grand-chose, hein, il reste plus des traces un peu. Et comme ça, lui, il dit, ben, c'est un peu cette œuvre, elle est un peu comme nous, elle a une vie, une naissance, une vie, et puis une mort. Hein, elle n'est pas... C'est pas... Il était contre un peu le concept de l'éternité de l'art. Hein. C'est une œuvre qui a une durée, et puis ensuite ça s'efface, on efface les traces, il ne reste plus des traces. Bon voilà, alors là, ça, c'était un petit peu pour vous expliquer un peu sa technique. Hein. Bon alors aujourd'hui, c'est l'art de rue, hein, on en voit partout, etc. Mais il était quand même le premier à avoir fait ça. Hein. Donc après, il a eu des tas d'émules. Mais il s'est engagé, il a fait des... Et là, je vais vous montrer ce cycle qui s'appelle Soweto Narwick. Hein, donc c'était au moment, il s'était beaucoup engagé au moment où il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud, et il s'est inspiré, alors est-ce que, oui là on voit assez bien, photographie de Sam Nzima montrant un étudiant en larmes portant le corps mort de Hector Patterson tué lors d'une manifestation pacifique contre l'apartheid le 16 juin 1976 à Soweto, donc une image qui a été prise, qui avait fait le tour du monde parce qu'elle était devenue iconique. Donc il s'est saisi de cette image, il l'a retravaillée, hein, par des dessins, et par exemple il a remplacé le corps de ce garçon par une mère qui portait son fils dans les bras. Et en changeant comme ça, ben, évidemment une mère qui porte son fils mort dans les bras, c'est quoi? C'est une piéta. Hein, donc c'est pour... et effectivement c'est devenu une piéta, enfin il n'a pas dit c'est une piéta, mais enfin on le décrypte comme ça. Et cette affiche, voilà, alors pareil, il retravaille au fusain, etc. Et ensuite, il est allé coller ses affiches un peu partout en Afrique du Sud, sur les marchés, etc. Avec toujours, il la mettait, vous voyez, il a gardé un peu l'image d'origine de la manifestation où il y a eu ce jeune tué, innocent. Hein. Et là, j'ai pris ce beau commentaire là, que j'ai trouvé dans un catalogue sur l'œuvre de Ernest Mignon-Ernest, hein, entre ses bras, le crucifié d'un genre nouveau, quelle personne n'était promis à aucune résurrection. Donc voilà un message
Ouais, il y a un message évidemment d'une souffrance, mais auquel le peuple noir d'Afrique du Sud pouvait s'identifier à ces figures évidemment, et qui a contribué aussi à une prise de conscience, je pense même au-delà du peuple noir, puisque évidemment, à part il y a eu différentes personnes qui se sont engagées pour mettre fin à cette situation de ségrégation raciale. Voilà, donc là, différents. Donc il était, lui, il était couleur d'affiche aussi, hein, il faisait tout. Hein, c'était quelque chose d'assez. Alors il a fait des tas de cycles, hein, d'autres qui sont moins politisés, ou qui sont plus, disons, pourrait dire, poétiques ou métaphoriques, mais là, le message poétique est très clair. Et la référence au Christ, hein, elle est aussi évidente, même si ce n'est pas explicitement dit. Et j'arrive à un autre sujet que j'ai appelé les militances implicites, c'est-à-dire parfois c'est moins percutant, c'est moins direct, mais il y a quand même un message sociétal, politique qui apparaît, mais qu'il faut pouvoir décrypter, en se questionnant, en se demandant pourquoi l'artiste a fait ça, et dans quel contexte il l'a fait, et à qui il s'adressait, etc. Alors là, je vais vous donner quelques exemples de que j'ai appelé ces militantes implicites. Alors là, on est à la Biennale de Venise. Vous savez qu'à Venise, tous les 2 ans, il y a une biennale. On dit que c'est un peu le plus grand espace d'exposition d'art contemporain, hein, mondial, etc. Et c'est par pavillon, pas pavillon national, même s'il y a aussi des artistes qui exposent à titre personnel, etc. Et là, c'est le pavillon de Tchèque et Slovaque, hein, les 2 pays qui se sont mis ensemble. C'est en 2003, 50e Biennale de Venise. Et donc le titre, un peu énigmatique, hein, Camera Scura plus Kunst Fu. Hein, un jeu avec Kung Fu, évidemment. Alors, qu'ont voulu faire ce groupe, c'est un groupe d'artistes, hein, un groupe d'artistes à la fois tchèques et slovaques. Alors, moi, malheureusement, je n'étais pas sur place, hein, je ne peux pas être à toutes les biennales, etc. Mais là, comme c'est un exemple qui a été documenté et repris dans pas mal de revues d'art et qui est devenu finalement assez célèbre, je vous en parle. Et on va essayer de se mettre en situation tous. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Oui, ça va à peu près. Donc, on rentrait comme si, vous voyez, avec un portique, hein, comme si on rentrait dans un lieu où il faut avoir payé pour pouvoir rentrer, ou tout. Et une fois que vous étiez rentré là-dedans, vous étiez dans un lieu sombre. Oh, oui, là, ça va à peu près, les couleurs, hein. En fait, il y a des couleurs qui se reproduisent bien dans votre vidéoprojecteur, et puis
C'est
d'autres
le vert et jaune.
c'est le vert et jaune qui sont, oui, problématiques. Et là, donc, vous avez cette camera scura, donc cette chambre obscure, comme si c'était, voilà, cet espace clos, où vous aviez 2 écrans géants des 2 côtés avec, donc c'est de la vidéo, hein, des foules en liesse qui acclamaient des super sportifs, hein, c'est des foules qui haranguaient des footballeurs, hein, tout le monde est super excité, etc. Et chacun applaudit et hurle pour que son équipe soit vainqueur sur l'équipe adverse, etc. Enfin, on peut imaginer ça, puisqu'on le voit à la télévision tout le temps. Et au milieu, eh ben, vous avez un athlète qui fait donc des anneaux, hein, et il échoue, en fait. Il n'arrive pas à faire sa performance. Hein. Et je vais vous montrer sa figure un peu plus près. Donc, voilà, donc il y a un espèce de contraste entre cette foule qui hurle pour avoir des sportifs qui sont super performants, et puis celui qui est au centre, qui rate tout. Et cette figure, en fait, c'est une figure christique. Hein, voilà, le visage Christ reprend. Alors, c'est en même temps un Christ, hein, ben, on décrypte, hein, comme ça, comme s'il était crucifié, même si ses mains tiennent des anneaux. Et en fait, elle représente un athlète tchèque qui a obtenu une médaille d'or au JO de 36, celle qui a été organisée par l'Allemagne nazie. Donc vous voyez, il y a tout un tas de références qui viennent se télescoper les uns les autres, mais enfin, en tout cas, cet artiste, voilà, il n'a pas la figure de quelqu'un qui réussit beaucoup sa performance. Hein. Voilà, il est seul, il rate. J'ai encore un autre, vous voyez. Alors, j'ai trouvé ça assez subtil, parce que ça, c'est ma proposition. Je propose qu'il y a 5 niveaux de lecture différents dans ce qu'on fait, cette installation. Hein, cette installation. Premier niveau, première lecture superficielle, un artiste est là et on l'acclame, hein, parce qu'il y a tout un. Deuxième lecture, quand on fait plus attention, mais en fait, cet artiste, il fait rien, quoi. Il n'arrive pas, voilà, il a la tête penchée, il est voilà, il est découragé, etc. Donc, il y a une espèce de choc, un peu. Troisième lecture, elle est iconologique, c'est-à-dire, ben, cet artiste, en fait, cet athlète, il a une tête critique, hein, un peu comme on est habitué à voir le Christ, voilà, dans les représentations, etc. Quatrième lecture, alors cette fois-ci, elle est plus théologique, ce Christ, il est, alors j'ai un point, un mot théologique, il est kénotique, c'est-à-dire, c'est l'expression même de la faiblesse de Dieu, hein, voilà, c'est l'impuissance de l'homme dans son impuissance totale, hein, qui va représenter, ça c'est la théologie du terre, la théologie à crucis, hein, dans l'homme, dans le Christ humain, dans son humanité la plus extrême, il représente la grandeur de Dieu. C'est un peu le paradoxe, hein, qui a été souligné par l'apôtre Paul et repris en avant dans la théologie luthérienne. Et cinquième lecture, elle pourrait être plus politique et sociétale. Hein, derrière ça, ces artistes dénoncent la manipulation du sport par les dictatures, par les gouvernements autoritaires et même par le capitalisme. Hein, bon, et ils ne croyaient pas si bien dire, hein, parce que bon, les Jeux Olympiques qu'on vient de vivre, ça m'a un peu réconcilié, disons, mais quand on a eu les derniers Jeux, disons, en Chine, avec nos grands dictateurs mondiaux qui se félicitaient par tous ces artistes, on se pose quand même des questions, voilà, les relations entre le business du sport et les dictatures et tout ça. Donc voilà, donc il y avait aussi un message politique chez ces artistes. Alors je ne les connais pas, hein, je ne sais pas qui ils sont, mais vous voyez qu'ils nous propose un peu des pistes et à nous de trouver, c'est sous forme d'une énigme, un peu d'une énigme, mais à nous d'essayer d'aller jusqu'au fond. Et plus on étudie ce type d'œuvre, plus il y a finalement à découvrir dans différentes directions. Et d'ailleurs, je conclue avec ce groupe d'artistes, cette installation, alors pas les panneaux avec la vidéo, mais le Christ athlète là, qui échoue, elle se retrouve maintenant, semble-t-il, hein, semble-t-il, elle a été exposée en 2013 et peut-être qu'elle y est encore, hein, dans un musée pour l'art contemporain à Prague. Et à l'occasion même, vous voyez qu'on a mis une couronne d'épines fluo au-dessus du bâtiment. Hein, c'est quand même incroyable. Hein, vous voyez comment. Alors bon, je pense que c'était une exposition temporaire parce que j'imagine pas que le bâtiment reste avec sa couronne d'épines comme ça. Au fil des ans, mais vous voyez comment quand même ça fait sens, et que dans les milieux de l'art et dans des milieux qui sont pas du tout des milieux d'église, eh bien finalement cette figure elle apparaît, elle réapparaît, elle est réinterprétée, elle investit des lieux différents pour un message, des messages qui sont qui sont parfois beaucoup plus complexes que ce qui n'apparaît au premier abord. Et je vais vous faire la même démonstration ici avec une œuvre d'un artiste russe qui s'appelle Alexandre Kozolapov et qui a exposé cette œuvre dans une exposition qui a eu lieu à Karlsruhe. Dans Karlsruhe, il y a un musée musée de technique, art et technique, hein, quelque chose comme ça. Et l'exposition s'appelait Médium Religion. Médium Religion, c'est-à-dire que comment les médias et les religions peuvent rentrer en connivence ou en concurrence, enfin bref, voilà. Et vous voyez que, en fait, c'est des panneaux lumineux, donc je vais montrer en contexte d'exposition, puis après je vous montre un peu ce qu'on voit. Et évidemment, il y a une espèce de choc, on voit Coca-Cola et McDonald's, donc les logos de nos firmes internationales, américaines, etc. Cette tête de Christ, c'est un Christ un peu iconique, hein. On pense à une icône russe, etc., qui nous regarde face à face. Et puis ces slogans, enfin ces phrases en anglais qui sont en fait des paroles bibliques, hein. Ceci c'est mon sang et c'est mon corps. Hein. C'est mon corps. Alors bon, non, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ça? Et en fait, moi je pense, mais j'ai aussi étudié un peu la démarche de cet artiste, donc c'est un peu, je vous donne un peu la clé là. Même s'il n'explique pas, hein. La clé, c'est que on peut lire cette œuvre dans deux sens différents. Je parle d'œuvre réversible. Elle peut être lue d'une manière et d'une manière inverse. C'est-à-dire que ça peut être on peut lire comme la dénonciation de la société de consommation américaine. Finalement, elle s'est substituée à créer une espèce de grand-messe autour de la nourriture, autour de quelque chose à boire et quelque chose à manger. Et finalement, en se substituant à ce qui devrait être le vrai sens d'une communion véritable, c'est-à-dire l'Eucharistie, la scène, etc. Donc là, la figure du Christ serait comme une espèce de en contradiction totale avec ce qu'il y a derrière. Mais on pourrait lire dans le sens inverse aussi, en disant, mais finalement, le Christ c'est du passé, c'est fini. Maintenant, on a peut-être communié au sang et au corps du Christ à une époque, mais maintenant, on est dans une autre type de situation, on est dans la société de consommation, et c'est plus le Christ, c'est plus les églises qui sont des lieux de communion, ce sont ces fast-food où les familles sont contentes de se retrouver, etc. Vous voyez, ça peut être à la fois une dénonciation ou alors au contraire un constat que on n'est plus dans la chrétienté, on est dans la consommation. Voilà, je vous laisse vous décider de quel. Et dernière œuvre un peu implicite que je voulais vous montrer, c'est à Eisenheim, à Colmar, c'était à l'occasion d'une de ces multiples restaurations de cette œuvre. J'ai l'impression qu'elle passe son temps à restaurer, parce qu'on a encore une. Voilà, et on a demandé à un artiste, Adel Abdesemed, qui d'ailleurs, là c'est assez nouveau, c'est un artiste algérien, donc qui n'est pas du tout de racines chrétiennes, même culturelles, mais qui dit avoir été fasciné par cette figure du Christ, du Christ souffrant, et qui en a fait quatre. Quatre, alors pourquoi quatre? Alors quelqu'un a dit parce qu'il voulait pas que ce soit trinitaire, pour qu'on l'accuse d'être faire de l'apologie chrétienne, donc il en a fait quatre, et avec des fils de fer barbelés, enfin une espèce de barbelé, mais en fait ce sont les mêmes, c'est des fils de fer très tranchants, qui faisait allusion au camp des prisonniers de Guantanamo, où on a enfermé des tas de gens après les attentats du 11 novembre, dont certains qui n'ont jamais eu de procès, etc. Et donc il y avait aussi là ce rappel qu'aujourd'hui les grandes démocraties pouvaient se permettre de parfois allègrement bafouer les droits humains et donc ce Christ qui était là comme une espèce de Christ. Alors moi j'ai malheureusement loupé cette exposition aussi en vrai, mais j'ai rencontré un dominicain de Strasbourg qui lui a dit qu'il était absolument fasciné par ces représentations. C'était quelque chose Alors il y a à la fois cette violence, parce que évidemment c'est dur, mais il dit qu'il y avait aussi certaines douceurs, la magie de l'art d'arriver à faire coïncider des contraires, violence, douceur, etc. Donc dans un cadre.
Et c'est où maintenant ?
Ça, il y a eu aussi des articles là-dessus parce que, évidemment, François Pinault, nos grands collectionneurs et multimilliardaires, etc., il est tombé amoureux de cette sculpture. Il l'a acheté, je crois, plusieurs millions d'euros. Voilà. Donc, quelque part, il y a un peu une contradiction aussi entre ce message et puis où maintenant elle se trouve dans la collection privée de François Pinault. Donc, c'est un peu dérangeant, quoi. Mais c'est un peu, c'est aussi, c'était un peu comme Pignon-Hermès qui voulait surtout pas exposer dans les galeries, et maintenant il y a des rétrospectives sur lui dans des lieux très prestigieux qu'il aurait refusé au début de sa carrière. Mais ça c'est un peu le destin. Alors, petite histoire sur notre Christ qui parle aussi bien au-delà des milieux chrétiens. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. J'ai une étudiante de l'université d'Alger qui me contacte un jour en me disant, écoutez, je sais que vous travaillez sur des thèmes. Je fais une thèse sur les images du Christ sur la croix. Pour quelqu'un qui a un pays musulman, etc. C'est très étonnant. Alors elle a réussi à avoir une bourse de quelques mois pour venir en France, donc elle est venue me voir à Strasbourg et je lui ai dit, mais enfin comment comment vous avez réussi à faire accepter ça, pourquoi vous avez fait ça? Elle m'a dit, je voulais travailler sur la souffrance, la souffrance des gens qui souffrent dans leur corps, et en fait la seule image que j'ai trouvée c'est le Christ, il n'y en a pas d'autre, dans un pays musulman il n'y a de toute façon pas d'image, mais même sinon, etc. Et pour vous avez eu cette idée, ah non, parce que j'ai vu dans un reportage, c'était sur le génocide arménien, on avait crucifié des femmes, j'ai trouvé ça absolument horrible, etc. Et puis après j'ai vu que des artistes avaient repris ça sous le vent, alors j'ai décidé de faire. Et je dis, vous avez réussi à convaincre vos directeurs de thèse de faire une thèse là-dessus à Alger. Il me dit, bah oui, parce que j'ai vraiment présenté que c'était vraiment sur la souffrance. Et alors je dis, bah écoutez, si vous n'êtes pas d'accord que je prenne le Christ, trouvez-en moi d'autres exemples. Et puis ils n'en ont pas trouvé. Donc ils ont accepté, finalement. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que ouais, c'est quand même une figure très intéressante, parce que là, on est même au-delà, hein, comme je sais que vous êtes dans l'interreligieux aussi, on peut même aller au-delà du christianisme. Hein. Il y a encore un autre exemple, et ça il est très connu et très classique, pour ça que j'en ai pas parlé, mais c'est Chagall. Hein, vous savez que Chagall, quand même juif, croyant, pratiquant, il a fait tellement de Christ sur la croix, mais il ne faut pas dire que Christ, c'était le Jésus juif. Justement, c'était Jésus en tant que juif, mais il en a fait tellement qu'il y a eu une thèse à l'université de Nancy en 3 volumes, sur tous les Jésus crucifiés de Chagall qui sont dans toutes ses œuvres, et la plus célèbre étant la fameuse crucifixion blanche, hein, qu'il a faite après la nuit de cristal en Allemagne, hein, 9 novembre 33 ou 34. Voilà, donc on va avancer un peu, et j'ai encore un dernier chapitre, même le médium photographique, parce que je me suis rendu compte, au cas de marché, et je ne suis pas le seul, puisque on est deux à avoir travaillé là-dessus, que la photographie, donc le médium photographique, hein, avait revalorisé l'image de Christ de manière incroyable depuis ces dernières années. Alors là, ça aboutit d'ailleurs, ces recherches, à deux ouvrages, un d'une de mes collègues, hein, qui s'appelle Nathalie Dicci, qui a fait une thèse, et la thèse est devenue un livre dont le titre est, voilà, je vous ai mis ça, Le Christ au miroir de la photographie contemporaine. Elle a soutenu sa thèse à Lausanne, en histoire de l'art, hein, pas du tout en histoire de l'art. Et moi-même, j'avais organisé un colloque il y a quelques années à Strasbourg qui s'appelait, dont le titre des actes du colloque s'appelle Le Christ fait envisager, variation photographique contemporaine, où j'avais moi aussi, réuni d'ailleurs des photographes qui étaient venus exposer et qui avaient de manière métaphorique ou ludique ou tout ce que vous voulez, mis en scène le Christ dans des contextes qui, évidemment, pas du tout le contexte biblique, mais des contextes de notre époque. Donc, voilà, c'est une figure qui aide à l'actualisation d'un certain message. Alors ça, je vais vous donner quelques exemples de ça, donc que j'ai trouvé, certains un peu par hasard. Ici, on est quai Branly à Paris, donc en gros en face du musée des arts premiers, voilà, qui avait été créé par Chirac. Et c'était une exposition qui s'appelait Photo Quai. Je crois que ça continue, hein, maintenant, mais c'est dans différents lieux, plus forcément. Mais là, on est sur le bord de la Seine. Il faisait pas très chaud, vous voyez, on est en novembre. Et puis je vois des boxes avec des photos, puis tu vois cette immense photo d'un photographe, Marcos Lopez, avec ce titre « Christ dans la lagune », Argentine, province de Buenos Aires, oui, voilà. Alors, avec ce monsieur qui a longuement regardé ça, et c'est très intrigant cette photo, parce que on voit ce Christ qui est sur une croix dont il manque le titulus. C'est en béton, les mains sont coupées, enfin il n'y a plus de mains, c'est un peu voilà. Alors on ne sait pas s'il est sympathique ou pas sympathique, ça c'est déjà la première chose. Et puis il est dans un, alors c'est quoi, c'est un lac, c'est quelque chose qui, une espèce de mer qui recoupe tout. Et donc on est un peu contrarié, parce qu'on ne sait pas comment interpréter ce. En même temps, c'est quand même le seul motif qui est là. Il est incontournable, mais est-ce que c'est qu'est-ce qu'il veut dire par là, qu'est-ce que l'artiste veut dire. Et en faisant un petit peu des recherches, j'ai dit, mais voilà, c'est un peu comme le Kozolapov avec son montage là. Il a voulu exprimer deux messages contradictoires, en fait. Le premier message, alors, qui était un peu une accusation du christianisme, hein, c'est un Christ qui est, voilà, et qui va représenter, alors, pour lui, dans son imaginaire,
puisque c'est un latino-américain, ben, ces chrétiens qui sont arrivés, les conquistadors, qui sont arrivés sur des vaisseaux et qui ont envahi le continent sud-américain et qui ont christianisé toute la population en la trucidant, etc. Donc c'était un Christ dont le message a été accompagné d'actes de violence absolument insoutenables. Donc c'était le côté un peu accusateur. Mais il y a le côté aussi que tout disparaît. Comme si on était devant une inondation, il ne restait plus rien, et puis quelques arbres, mais voilà. Mais il reste quand même ce bloc qui est là, avec un homme qui est un homme qui, alors bien sûr que c'est de la matière solide, mais c'est un homme souffrant. Et ça peut être aussi l'idée, tout à fait inverse, que finalement dans un désert de mémoire, on perd la mémoire de ce qui s'est passé, des grands faits, des récits mythiques, etc., ben, il reste quand même une figure qui est là, qui va parler à certains, etc., dans l'effacement de la mémoire. Donc, vous voyez, c'était... Et en m'informant un peu plus sur cette démarche, parce qu'il en a fait d'autres œuvres avec d'autres thématiques, c'est ça, il dit, au fond, c'est au lecteur, à celui qui va regarder la photo, de décider du sens qu'il veut donner à l'œuvre. Et s'il mélange des messages contradictoires, c'est justement pour brouiller un peu les pistes, hein, si vous voulez, pour que la lecture soit pas trop facile. Hein, et finalement, à chacun de décider. Est-ce que le christianisme, ou est-ce que ce qui est porté par cette figure christique, c'est un message d'avenir, hein, qui ouvre des horizons, des perspectives, ou est-ce qu'au contraire, c'est finalement quelque chose qui est en train de se terminer, et puis après, il n'y aura plus rien. Voilà. À nous de décider. Autre réalisation, alors photographique, en cinq planches et sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui a aussi fait couler beaucoup d'encre, c'est cette scène, alors comment ça, oh là là, ça c'est un peu la catastrophe. Mais dès qu'on a des jaunes et des rouges, etc., donc je vous montre, je change un petit peu, oui, c'est comme ça. Donc c'est cinq panneaux photographiques c'est la scène, hein, avec tous les disciples sont des hommes tous de couleur, et au centre, le Christ, une femme, femme qui est de couleur et nue, entièrement nue. Donc oui, il y a un côté assez provocateur. Mais alors, cette œuvre, je vais vous montrer un détail, peut-être on verra un peu mieux. Donc elle a été exposée, attendez, je reviens. Exposé en 2001 au Brooklyn Museum of Art à New York, voilà, sur une exposition des photographies contemporaines d'hommes noirs, enfin voilà, d'afro-américains. Je ne sais pas si en France on pourrait se permettre de faire comme ça, des œuvres en fonction des origines ethniques des gens, mais bon, aux États-Unis ça a l'air de se faire. Voilà. Alors, cette série de photographies, c'est une série, elle a été dénoncée. Par le maire républicain de New York d'alors, hein, Rudy Giuliani, qui est devenu un Trumpiste patenté, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Alors, en même temps, cette œuvre a reçu le prix Elie Wiesel, un grand humaniste, etc., pour justement la réconciliation des peuples, des cultures, etc. Alors, là, est-ce que vous voyez un peu mieux? Oui, on voit un peu mieux. Hein, bon, même si les couleurs, c'est très très moyen. Bon, voilà. Et alors, moi j'ai lu, parce qu'il y a eu dans une université américaine une étudiante qui a écrit toute une étude là-dessus et qui a interviewé l'artiste, etc., qui, elle, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, en disant, mais en fait, moi je suis croyante, hein, en fait, vous savez, aux États-Unis, on peut être à la fois très provocateur, aussi très croyant. Donc, on n'est pas du tout dans ou bien, comme chez nous, etc. Et elle a dit, mais il y avait vraiment un message aussi... un peu politique, c'est-à-dire, on interroge sur la place des femmes, la place des femmes, ça c'est là, elle est au centre, elle prend la place du Christ, mais sur la nudité, elle a dit, mais la nudité, mais attendez, mais moi je regarde tous les tableaux de la Renaissance, je vais aux offices à Florence, je vois que des gens nus, partout, la nudité ne veut pas dire sexualité, ça veut dire c'est le corps humain, quoi, c'est l'humanité. D'ailleurs, je viens de recenser un livre de 600 pages,
de philosophie de la Sorbonne, etc., qui était sur l'histoire de la représentation du nu, et on dit bien que c'est anthropologique, c'est quand on veut penser l'être humain dans son humanité, dans sa corporealité, on est nu, voilà, il n'y a pas de, je ne sais pas, ils mettent des idées de ça. Donc elle dit, mais moi je suis tout à fait dans la ligne de, vous savez qu'au Vatican, la chapelle Sixtine, Michel-Ange, il a fait toute les jugements derniers, c'est que des nus, et ça a même choqué, alors la contre-réforme, on a mis tous des petits linges là, voilà, mais c'était pas dans la fresque d'origine. Voilà, donc il y a eu, là aussi, il y a eu un double message, qui était à la fois un message d'une personne engagée, qui a vu dans cette image de ce Christ célébrant avec les disciples, quelque chose qui l'a poussé à inculturer ça dans son contexte à elle, de femme afro-américaine, de femme de couleur, etc. Et donc quand on voit ça, moi je trouve que c'est une magnifique actualisation de cet événement à la fois biblique, christique, etc. D'ailleurs, j'ai reproduit, pour le dire, puisque c'est un tableau que c'est une photo, voilà, mais c'est composé comme si c'était un tableau, d'ailleurs, c'est très bien fait. J'ai fait la reproduction dans un livre que j'ai publié qui s'appelle La mystique de l'art et qui a été publié aux éditions du CERF, donc chez les Dominicains. Et j'ai quand même demandé au père dominicain qui suivait, est-ce que ça va pas gêner quelques-uns de vos lecteurs? Il m'a dit, non, c'est bon, c'est un travail scientifique, vous avez expliqué un peu tout, ça peut que être utile. Donc voilà, je rends hommage à cette ouverture d'esprit des dominicains du CERF qui ne voyaient absolument aucun problème de publier. Par contre, il fallait avoir les droits de reproduction, ce qui était un peu plus difficile, mais j'ai pu les obtenir. Et je termine, en fait, puis comme ça on est un peu dans les temps, parce qu'il faut aussi respecter, je termine par une dernière. Alors là, j'ai aussi, celle-là, il y a eu des écrits là-dessus, dont un article aussi que j'ai publié, et là, j'ai moins étudié, mais bon, il y a eu aussi des études de fait sur cette grecque Sebou. Un artiste qui vient des îles du Pacifique et qui a fait cet autoportrait avec 12 artistes. Alors c'est lui-même, donc il vient d'un peuple indigène, de Pacifique. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une scène cannibale. Alors une scène cannibale, vous allez voir pourquoi, il y a derrière quand même des choses très, très sérieuses. C'est un cochon grillé qui se trouve sur la table. Sourdier, animal apporté dans l'île par les colons, mais on voit aussi des morceaux de corps humain, des pieds, des mains. Alors, est-ce qu'on voit on voit là
bon.
Oui. Là, on voit une main. Bon, alors, et puis bon, c'est en son but. Alors, il y a les tatouages qui ont aussi tout un sens. Alors, Brexit oppose la conversation à la conversion. Alors, l'idée, je ne vais pas trop m'étendre parce que je n'ai pas rouvert le dossier récemment, donc il faudrait qu'il me manque un peu des éléments, mais c'est un peu aussi une scène anticolonialiste. Donc, vous voyez que beaucoup de ces représentations, il faut les replacer dans le contexte. Qui est l'auteur qui l'a fait, dans quel contexte, à qui il s'adressait, etc. Et si vous reprenez tout ça, ça va s'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a eu, on a qualifié ces peuples de cannibales. Ils étaient cannibales, ils étaient mangeurs d'hommes. Et au nom de ce soi-disant cannibalisme, on les a persécutés. On les a christianisés de force, etc., etc. Et après, on a découvert, en faisant des recherches historiques, mais ça, l'artiste, il a travaillé là-dessus, qu'en fait, ce cannibalisme, c'était une invention de toutes pièces. C'était justement un missionnaire qui voulait justement justifier un peu les actes de violence. Alors il a dit ils sont cannibales, alors nous on vient apporter la civilisation, la chrétienté, mais c'est un dossier qui reposait sur rien. Donc c'est sur la base d'une rumeur très, très dégradante, etc., qu'on a dit regardez ces sauvages, et nous on vient apporter le salut à paix. Mais qui sont les sauvages, en l'occurrence, c'est ceux qui ont monté tout ça pour pouvoir justifier des actes d'extermination ou de conversion forcée, etc. Donc voilà, là il y a un peu une prise de conscience de ces peuples qui certes ont reçu, puisque c'est des îles qui sont maintenant chrétiennes, qui ont reçu bien sûr le christianisme, mais
certains en sont très reconnaissants, mais ils ont aussi reçu d'une violence extrême et un mensonge politique qui les a dégradés dans ce qu'ils sont, dans leur histoire. Donc voilà un peu ce message. Et je crois qu'avec ça, j'ai un peu terminé. Voilà, j'ai terminé parce que, oui, vous avez montré beaucoup de choses.